Aujourd'hui, nous allons parler de Robert Walser à l'occasion de la parution, enfin de la réédition de plusieurs nouvelles sous le titre de Zeeland aux éditions Zoé. Et nous sommes avec Marlise Pietri, bonjour.
Bonjour.
Et Lucie Dubochet qui a lu et relu ces nouvelles en français et en allemand. Peut-être, Marlise Pietri, voulez-vous nous dire dans quelles conditions vous avez choisi de rééditer ces nouvelles de Robert Walser ?
Elles n'avaient jamais été éditées en français. Et c'est donc une première édition, sauf pour le texte principal qui s'appelle La Promenade, qui avait été édité séparément. Et c'est justement ce que les éditions Zoé veulent faire, avec l'aide des archives Walser à Zurich, c'est éditer en français l'ensemble des textes de Walser, peu à peu.
Et justement, comment expliquez-vous qu'une œuvre pourtant importante, quand même en Allemagne, elle passe pour capitale pour ce siècle, comment expliquez-vous qu'elle ait été si peu éditée en français et qu'elle ait passé si mal, finalement, auprès d'un public francophone ?
Alors ça, on ne peut pas tout à fait le dire. Les romans ont été découverts par Martha Robert dans les années 60. C'est elle qui a introduit Walser en France et les trois romans ont été traduits, sont parus et ont été extrêmement appréciés des Français. Donc l'Institut Benjamin Tas, Les Enfants Tanaires, et L'homme à tout faire, aussi publié sous le titre Le Commis. Et les Français ont beaucoup, beaucoup aimé Walser. Quand je dis que peut-être il n'est pas autant apprécié qu'il le devrait, je dirais que c'est plutôt en Suisse romande, où il me semble que les écrivains l'aiment beaucoup, ceux qui sont proches de l'écriture, mais que, en tout cas pour un public plus large, ça ne l'a pas encore atteint.
Alors des romans donc qui sont très appréciés, mais par contre les textes plus courts, ces chroniques, comme on peut les lire dans Zeeland, qui sont très peu connus et qu'on découvre des choses aussi qui se placent vraiment à la frontière de plusieurs genres.
Oui, et alors là il faut se reporter dans l'époque. Hein. Un écrivain comme Walser, qui a fait ses trois romans quand il était à Berlin, au début du XXe siècle, il a ensuite vécu de sa plume comme pouvait le faire un écrivain de cette époque. Et la seule façon de le faire, c'était de publier des courts textes dans des journaux. Et pendant 30 ans, Walser a envoyé ses textes aux journaux et il a vécu de ça. Alors, il y a des centaines, même des milliers de petites proses. Celles qui ont été choisies dans Zeeland ont été réunies par lui, prises dans les journaux où il les avait publiées, ont été mises ensemble. Ce sont plutôt des promenades, c'est pas directement une nouvelle, c'est pas non plus une prose brève, c'est beaucoup plus long. Et il en a fait un livre en les centrant autour du texte de la promenade. Mais au départ, c'était publié dans les journaux et un écrivain de cette époque pouvait difficilement, mais pouvait, vivre de sa plume en envoyant ses textes à des journaux et lui les envoyait en Allemagne, mais les envoyait en Autriche, il les envoyait à Prague où il y avait un journal allemand, Prager Presse, et il les envoyait aussi en Suisse.
Et donc ce sont ces textes brefs qui racontent à la fois, vous disiez donc, ces récits de promenade, mais aussi la condition de vie d'un écrivain, un ancrage dans un lieu, dans une famille, dans une tradition, qui est celle de cette région de Biel où Walser vivait donc à cette époque. Quel est finalement le public et auquel s'adressaient avant tout ces textes ?
Alors Walser vivait à Bienne à cette époque, puisque pendant la guerre, il a dû quitter Berlin. Et il a écrit ses textes juste après, 1916-1920. Et il les a réunis en se disant, je montre une région, mais il montre aussi, comme dans tous ses textes, la condition de vie de l'artiste. Alors le premier texte est sur son frère, Hans, qui est peintre. Dans les autres textes, on trouve toujours un artiste, sauf dans un texte que je trouve qui est particulier, mais qui est tout à fait extraordinaire, où on voit tous les enfants de la famille Walser qui font l'éloge funèbre du père devant son cercueil. Ce n'est pas à l'église, c'est dans une chambre mortuaire. Et chacun dit quelque chose sur ce père. En disant ça, bien sûr, c'est toutes les relations dans la famille, mais aussi la façon dont il avait un frère peintre, lui était écrivain, dont il voit les choses, chacun voit quelque chose de complètement différent et parle soit à partir de sa situation de fils, soit à partir de sa situation d'artiste. Et dans tous ces textes, on va parler tout à l'heure, je pense, de la promenade, on se rend compte que les personnages qu'il rencontre sont ou bien des personnages qui sont complètement, complètement marginaux, complètement en dehors de tout ordre social, et il en est très proche, ou bien il y a des personnages qui représentent l'autorité de la pire des façons. Et tout à l'heure, j'aimerais lire juste un paragraphe d'un texte, d'une rencontre qu'il fait lors de la promenade, où il rencontre un professeur. Parce que je trouve que Walser excelle à lier... D'abord, il excelle dans les portraits, vous êtes d'accord. Et dans la promenade, on n'a pas seulement la promenade et le paysage, qui est tout à fait exceptionnel, mais on a aussi tout d'un coup les personnages rencontrés, et ces portraits montrent à quel point c'est un grand écrivain, à cause de son immense lucidité sur lui-même déjà, mais aussi sur les autres.
Donc un rapport assez ironique aussi, assez caustique à ces personnages justement, avec à la fois cette tendresse et aussi toujours cette rudesse avec laquelle il les traite. Je sais pas, est-ce que...
C'est exactement ça. Et parce qu'il sait qu'en lui-même, moi c'est ça que j'aime chez Walser, comme en chacun de nous, il y a ces deux opposés, hein, de la tendresse et puis quelque chose de très violent. Hein. Le doux Walser est quand même quelqu'un de très violent à l'occasion. Alors je veux juste lire ce texte parce que je trouve que ça montre bien comment Walser voit les gens qui sont installés dans la vie. Et là c'est quand même l'artiste qui n'a jamais vécu autrement que dans des chambres et qui n'a jamais pu vivre de façon intégrée. Alors, il commence sa célèbre promenade, qui est au centre du livre, qui s'appelle d'ailleurs La promenade, et il dit « Je n'avais pas fait 20 pas pour traverser une large place grouillante de monde que je vis le professeur Mélie, une sommité de premier plan, venir avec légèreté dans ma direction. Image même de l'autorité inébranlable, M. Mélie avait un port altier, grave, majestueux. Sa main tenait une canne inflexible, scientifique, qui m'insufflait effroi, déférence et respect. Le nez de Mélie était busqué ou aquilin, tranchant, dur, sévère, dominateur. Sa bouche était juridiquement close et pincée. La démarche du célèbre savant ressemblait à une loi d'airain. Au fond des yeux du professeur Mélie, sérieux, dissimulé derrière des sourcils broussailleux, étincelait toute l'histoire universelle et le reflet d'actions héroïques très anciennes. Son chapeau ressemblait à un tyran indéboulonnable. Dans l'ensemble, toutefois, le professeur Mélie se comportait avec mansuétude en homme qui n'avait pas du tout besoin de faire voir la somme de pouvoir et de poids qu'il personnifiait. Comme je pouvais me dire que ceux qui ne sourient pas avec suavité sont du moins droits et probres, il m'était sympathique, malgré sa raideur implacable, car il y a des gens, on le sait, qui s'entendent fort bien à cacher leurs crimes sous des dehors séduisants, engageants.
Merci pour cette belle lecture. Alors très bien, vous lisiez donc ce texte de Walser, et vous parliez juste avant de cette place de l'écrivain qui est ambiguë, à la fois un métier et qui n'en est pas un, pas reconnu par la société. Comment cette problématique transparaît-elle à travers ces textes de Walser?
Elle transparaît dans toutes ses histoires et aussi dans la façon dont il parle des autres écrivains et aussi dans la façon dont il a écrit ses textes. Comme lui n'a jamais été quelqu'un qui a été soutenu régulièrement par un éditeur, il était, et que après cette période de Berlin très fructueuse, avec beaucoup de succès, il a eu beaucoup de peine à se faire reconnaître. Il a très souvent mis dans ses textes des personnages qui n'avaient pas de lieu fixe, qui bougeaient, qui se promenaient comme il aimait bouger, et puis des personnages qui étaient très souvent qui logeaient chez une logeuse, donc qui n'avaient même pas de domicile à eux. Donc il fait beaucoup de ces portraits de gens qui sont toujours mieux établis que lui. Et parfois, quand il parle des autres écrivains, il se moque très violemment, en fait de façon très caustique, d'écrivains qui savent yodeler, dit-il, comme le veulent les grands de ce monde. Enfin, yodeler de façon patriotique, n'est-ce pas, pour être bien reconnu et bien accepté. Il y avait donc la conscience totale qu'il était en dehors, qu'il était absolument quelqu'un qui était un marginal. Et quand je vous ai dit que ça avait de l'influence sur son écriture, je pense que à la fois, ça le poussait à être extrêmement professionnel. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, qui écrivait tous les jours, qui écrivait de façon extrêmement méthodique. C'est quelqu'un qui envoyait, donc sans arrêt, ses textes à ses journaux. Et puis d'autre part, c'est quelqu'un qui, à partir d'un certain moment, justement à peu près la période de Zélan, même un peu avant, les 10 dernières années avant qu'il soit interné, il a commencé à écrire en tout petit caractère, d'une façon, d'une telle écriture que ses héritiers n'ont d'abord pas pensé que c'était des écrits, mais en fait c'était une façon d'écrire que lui seul pouvait relire. Et c'était un tout petit peu son atelier d'expérimentation. Il écrivait ses histoires sous une forme micrographique. Ça lui demandait une énorme concentration. Il les écrivait au crayon et il disait qu'il avait été dégoûté de la plume, qu'il avait eu des crampes. C'est toujours ça, cette situation de l'écrivain qui doit retrouver du courage et qui doit trouver là son espace personnel en dehors du monde pour faire ses textes. Et ses microgrammes ont été publiés en allemand et en partie en français. Donc c'est un cas quand même assez rare dans la littérature de quelqu'un qui a écrit des textes qu'il a fallu 20 ans pour déchiffrer et déjà 10 ans pour qu'on se rende compte que c'était des textes. Et c'est des textes tout à fait étonnants. Des proses, il y a même un court roman, Räuberroman, hein. Et aussi des poèmes, de très très beaux poèmes.
Et donc c'est des textes que vous publiez partiellement dans le territoire du crayon.
Voilà, dans le territoire du crayon, on en a réuni une grande quantité grâce à Peter Hutz, à Marion Graf et aux archives Walser à Zurich. Et puis on a fait l'automne dernier un album auquel je tiens beaucoup parce que j'ai mis beaucoup du mien là-dedans pour choisir les microgrammes. Ça s'appelle Robert Walser, l'écriture miniature. Et on a reproduit un certain nombre de microgrammes. On a noté avec des chiffres où se trouvait le texte que l'on retranscrivait ensuite en français. Donc on peut se rendre compte où tel poème, par exemple un poème sur la neige, dans quel lieu il l'avait mis de son microgramme. Ce que je dois aussi dire sur ces microgrammes, c'est qu'ils étaient faits sur des papiers de fortune. Il manquait beaucoup de papier, et puis très souvent c'était fait sur des enveloppes, sur des calendriers, sur du papier d'emballage.
Et cette forme très rassemblée, très miniature, ou peut-être même Walser avait de la peine à se relire, quelle serait son impact sur la forme, cette fois, de l'écrit et de l'énoncé, parce qu'il y a quelque chose de très particulier dans la façon qu'a Walser de se servir de ses textes, et même on a l'impression qu'à travers son œuvre, c'est quelque chose qui devient de plus en plus radical, ce rapport, une écriture à la fois très redondante, avec des mots qui sont toujours répétés, et d'un autre côté, une très grande inventivité. Comment serait-ce à comprendre ce rapport entre une forme de la feuille, du graphisme et de la forme?
En tout cas, il ne perdait pas le fil de son histoire, et si on a l'impression qu'il se répétait, il y avait presque toujours une raison à ça. Maintenant, comme c'était une sorte de laboratoire dont il ne reprenait pas forcément tous les textes, il se laissait aller et il arrive parfois, oui, qu'il ait peut-être outrepassé ce qu'il voulait dire, soit dans le domaine de la légèreté où on a l'impression que ça virevolte tellement qu'on a de la peine à suivre, ou parfois dans le domaine du trait extrêmement vif vis-à-vis de telle ou telle situation. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur cette relation entre l'écriture vraiment de micrographique et puis l'écriture de Walser lui-même. Ça, c'est pas du tout épuisé.
Qui a donc encore peu été finalement interrogé, ou bien
très peu, vraiment. Vous savez que l'année prochaine, ce sera le 50e anniversaire de la mort de Walser, puisqu'il est mort à Noël 56. Et il y aura encore des livres qui vont sortir en allemand, dont une biographie par l'image. Mais sur ces textes eux-mêmes, c'est sur ces textes micrographiés, on a publié dans Robert Walser, l'écriture miniature, deux textes qui expliquent ce que vous venez de me demander, que j'ai vraiment énormément résumé, qui sont faits par des professeurs dont un des deux, Morlang, a déchiffré lui-même pendant 20 ans.
Et quant à vous, vous vous attelez à une tâche de traduction, enfin votre édition, disons, vous déléguez ça, mais évidemment ça pose des grands problèmes parce que le texte, on sent bien que c'est un texte difficile à traduire avec justement toutes ces finesses, tout ce jeu avec la langue qui est difficile à faire passer. Comment s'y prend-on déjà en tant qu'éditrice pour soutenir le travail de la traductrice, pour éventuellement la guider et comment une traduction naît-elle?
Franchement, ça aurait été impossible de traduire Walser s'il n'y avait pas eu une traductrice qui était vraiment prête à y passer des heures et qui était prête à suivre toutes les difficultés de cette traduction. Donc Marion Graff, qui a fait la plupart des livres qu'on a publiés, s'est maintenant complètement attelée à cette tâche. Et j'ai vu des brouillons de ce qu'elle a fait. C'est absolument incroyable. C'est un travail de fou. Elle prend, elle reprend, elle tourne dans tous les sens pour arriver à ce qui serait dans la langue d'aujourd'hui la meilleure traduction de Walser, c'est-à-dire la plus légère, mais qui n'enlève pas les nuances. Qui laisse toujours le lecteur un petit peu interloqué. Il y a des allers et retours. Enfin, il y a des choses qui paraissent des fois un peu folles. Et souvent, elle pense que sa traduction est moins lisible que moi je ne la trouve quand je lis sa première version. Que moi je trouve bonne et je trouve que le texte est extrêmement intéressant. Même s'il s'agit d'une toute petite prose où les choses ont l'air de virevolter.
Très bien. Et comment allez-vous continuer cette série de publications? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont en train de se faire ou bien?
Alors, il y a un programme qui continue. Je suis très contente que vous le demandiez parce qu'il y a encore énormément de petites proses qui n'ont pas été traduites. Alors, on essaiera de les rassembler. Par exemple, il y en aura une sur son attitude, sur les artistes, justement. Et il y aura un livre l'année prochaine qu'on fera en même temps en allemand et en français où il y aura une quinzaine de peintures dont il parle, de l'histoire de la peinture. On reproduira la peinture. Et aura son texte. Donc il y aura son texte sur un Van Gogh, sur une quinzaine de peintres. Et on sortira aussi le seul livre entier sorti de son vivant qui n'a jamais été traduit, Poetenleben, Vie de poète. Et puis on va continuer avec la correspondance, un volume de 600 pages. Et ça, je m'en réjouis énormément parce que je suis sûre qu'on saura énormément de choses sur le mystère Walser.
Eh bien, nous aussi. Merci beaucoup en tout cas pour cette entreprise.